mimétiquement vôtre, Voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine.
Bonjour Jean-Louis. Bonjour aux auditeurs. Quel sera notre programme cette semaine ?
L'anthropologie de René Girard apporte beaucoup de choses. Elle apporte aussi un critère de qualité des ouvrages de fiction. Voilà ce que nous pourrions développer.
Peux-tu préciser l'idée ?
Toutes les théories anthropologiques s'efforcent de dégager des constantes, des mécanismes, des lois pour le comportement humain. Dans le cas de René Girard, ces lois
sont le mimétisme du désir, les rivalités et les crises que le mimétisme engendre, la résolution de ces crises par le recours à des boucs émissaires.
Tu connais ton Girard sur le bout des doigts. Qu'il s'agisse d'un roman, d'un film, d'une pièce de théâtre ou autre, une œuvre de fiction est une représentation du monde et de l'humanité. Nous la trouvons réussie lorsqu'elle ressemble vraiment à la nature humaine. Pour qui pense que la vision de René Girard est juste, cette ressemblance sera convaincante s'il y retrouve les mécanismes de l'anthropologie mimétique que tu viens de rappeler.
Est-ce à dire qu'avant René Girard, il était impossible de porter une évaluation correcte des ouvrages de fiction ?
Non, bien sûr. Pour René Girard, les mécanismes du mimétisme et de tout ce qu'il engendre sont inscrits au fond de nous. Même si nous n'en avons pas une conscience précise, nous ressentons leur présence, non seulement en nous-mêmes, mais aussi chez autrui et dans les œuvres de fiction lorsqu'elles les reflètent. Voilà donc le critère de qualité, les œuvres dans lesquelles les protagonistes agissent selon les mécanismes mis à jour par Girard vont nous paraître vraies, vont nous toucher, et à l'inverse, celles qui passent à côté vont nous sembler factices, peu crédibles, et nous laisser de marbre.
Peux-tu être plus concret ?
Nous allons parler d'ambivalence. La vision girardienne est marquée par l'ambivalence. Désirons-nous vraiment une chose que nous désirons par mimétisme ? Ne détestons-nous pas secrètement le médiateur de ce désir, alors même que nous l'admirons ? Ne ressemblons-nous pas à nos pires rivaux ? Ne serions-nous pas perdus sans nos boucs émissaires, ceux qui nous attachent à eux ? Ne sommes-nous pas attirés précisément par les tabous ? Tout cela signifie qu'un minimum d'ambiguïté est nécessaire aux héros pour nous paraître crédibles et réels. Les fictions qui reposent sur des bons et des méchants, des bons intrinsèquement bons et des méchants intrinsèquement méchants, peuvent nous captiver par l'action et les aventures, mais pas par la réalité humaine. Ce seront des divertissements, non des œuvres qui nous révèlent notre propre nature. Dans un traité qui date de près de 400 ans avant Jésus-Christ, l'art poétique, Aristote, déjà, recommande de choisir un héros ni absolument irréprochable, ni absolument coupable.
D'accord, Jean-Louis. Maintenant, sur le plan pratique, comment faire pour dépasser notre simple ressenti et identifier la présence de l'anthropologie de Girard dans les ouvrages que nous fréquentons ?
C'est une activité de détective. Il faut rassembler des indices.
Quel genre d'indices ?
Ceux relatifs au concept clé de Girard. Un personnage cherche-t-il à en imiter un autre ? Se trouve-t-il des phénomènes de snobisme, de conformisme, des rivaux et des rivalités ? Des quêtes de pouvoir ou de paraître ? L'action inclut-elle des crises, des cycles de vengeance ou encore des persécutions, des meurtres collectifs, des réconciliations ? Quand le nombre d'indices commence à grimper ou quand un indice est vraiment révélateur, nous sommes sur la piste d'une œuvre de premier plan, ou disons plutôt d'une œuvre qui va parler au plus profond de nous et non un simple divertissement.
Il faudrait maintenant que tu nous fasses une petite démonstration, monsieur Sherlock Holmes. Mais attention, nous nous souvenons que Girard a pris conscience de la nature mimétique du désir via quelques grands auteurs. Shakespeare, Stendhal, etc. Nous voulons que tu mènes l'enquête sur des auteurs qu'il n'a pas analysés.
Très bien. Je commencerai par l'Iliade, un récit qui fascine les lecteurs depuis 25 siècles. Trois déesses demandent à Paris, un beau jeune homme, prince troyen, de désigner qui est la plus belle des trois. Rivalité mimétique. Il désigne Vénus et sous sa protection enlève Hélène, l'épouse du roi grec Agamemnon. Rivalité amoureuse. Les Grecs s'unissent pour récupérer Hélène, c'est la guerre de Troie. Le siège dure, une crise éclate entre Agamemnon, le chef de l'expédition, et Achille, le plus grand combattant grec. Pourquoi ? ils se disputent une belle captive, Briseis, nouvelle concurrence amoureuse. Achille, vexé, cesse de combattre. Patrocle, son ami, imagine alors de revêtir l'attirail d'Achille pour faire croire qu'il est toujours là. Mimétisme. Cependant, le champion des Troyens, Hector, tue Patrocle. Fureur d'Achille qui reprend le combat et tue Hector. Spirale de la vengeance.
Bon, tu peux arrêter. Nous avons compris.
Encore un mot. Le poète romain Virgile, 8 siècles plus tard, écrit à son tour une épopée sur la même histoire. Il se concentre sur Énée, un prince troyen qui a échappé au saccage de Troie, et après une longue errance et moult aventures, fonde Rome. Cette épopée est très bien écrite, parfaitement équilibrée. Mais elle ne touche pas le lecteur. Énée est un héros trop parfait, et aucun phénomène mimétique n'est présent.
Un autre exemple, plus proche de nous ?
Prenons Molière, le bourgeois gentilhomme. Le titre même est une signature mimétique, un bourgeois qui veut être autre chose que ce qu'il est. Dans une autre pièce, Don Juan, le personnage principal explique à son valet comment il est tombé amoureux d'une jeune paysanne. Écoutons ce passage interprété par Michel Piccoli.
La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui fut conduite ici par celui-même qu'il vient d'épouser. Et le hasard me fit rencontrer ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu deux personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leur mutuelle ardeur me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur. Et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus souffrir d'abord de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs et je me figurais un plaisir extrême à pouvoir troubler leur intelligence et rompre cet attachement dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée.
Mon amour commença par la jalousie. C'est presque une définition du désir mimétique. Autre auteur que n'a pas abordé Girard, Alfred de Musset. Dans le drame Lorenzaccio, un jeune noble, Lorenzo, veut tuer le tyran que Charles Quint a imposé à la ville de Florence, autrefois une république libre. Sacrifice d'un bouc émissaire. La nostalgie de cette époque lui est inspirée par Philippe Strozzi, un vieux républicain. Désir mimétique. Pour assassiner le tyran, un débauché, Lorenzo feint d'en être un lui aussi, pour devenir son intime. Mimétisme. Mais Lorenzo retarde sans cesse son projet, il ne parvient pas à l'exécuter. La foule finit par le prendre pour un complice du tyran, le met à mort et jette son corps dans le fleuve. Lynchage collectif.
Homère, Molière, Musset, faut-il s'en tenir aux grands classiques pour trouver l'anthropologie girardienne ?
Nous la retrouvons aussi dans des auteurs plus récents. Dans Le Moulin de Pologne, Jean Giono raconte comment les membres d'une famille sont réputés porter une malédiction. Et à chaque génération, un membre de la famille subit une forme ou une autre de lynchage par les habitants du village. Albert Camus, dans La Chute, raconte la confession d'un homme qui a pris conscience de ce que sa vie était gouvernée par des modèles de comportement qui l'ont conduit à de constantes désillusions. Des indices de la vision de Girard apparaissent aussi dans des ouvrages plus légers. Astérix, par exemple, a fait l'objet de plusieurs analyses sous un angle girardien. Goscinny, le scénariste, maîtrise parfaitement les ressorts du mimétisme. Par exemple, dans Obélix et compagnie, un jeune technocrate ambitieux propose à César de réduire le village gaulois en y déclenchant une frénésie économique et commerciale. Il commence ainsi son exposé. Pourquoi achète-t-on un objet ? Réponse A, il est utile. Réponse B, il est agréable. Réponse C, il excite la jalousie des voisins. Pelham Grenville Woodhouse, un auteur humoristique anglais, utilise aussi les ficelles du mimétisme dans ses romans. L'un d'eux, Savage Jeeves, est presque un exposé de la théorie mimétique. Le valet Jeeves explique carrément à son patron comment il a utilisé le mécanisme du bouc émissaire pour résoudre l'imbroglio dans lequel les personnages étaient englués.
Et au cinéma ?
C'est la même méthode. Dans le film Plein Soleil, adapté d'un roman policier de Patricia Highsmith, Alain Delon joue le rôle du secrétaire d'un riche héritier oisif. Il l'envie. Dans une scène révélatrice, nous voyons Delon revêtir les vêtements de son patron et imiter sa voix. Puis il finira par le tuer. C'est l'expression exacte du désir métaphysique selon Girard, celui qui pousse à s'approprier l'être même de celui que l'on admire.
Je crois maintenant que nous avons de quoi percevoir autrement les films, livres, séries, pièces de théâtre ou bandes dessinées que nous aimons. Au revoir Jean-Louis.
Au revoir Catherine, merci aux auditeurs.